Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Aujourd'hui, nous allons parler de NFTable qui permet de gérer le firewall sous Linux. NFTable va remplacer entre autres la fameuse commande IPTable. Pour cet épisode, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nico P.
Salut.
Eric Fraissinet.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan. Et pour discuter de NFTable, nous recevons Eric Leblon qui contribue au développement de NFTable.
Eric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, alors je suis un contributeur maintenant à long terme sur le projet NetFilter. Je suis dans le milieu de la sécurité et du réseau depuis assez longtemps maintenant. Je contribue à NetFilter depuis 2005 et je suis membre de l'équipe dirigeante pompeusement appelée la NetFilter Core Team depuis maintenant 2 ans. Et donc ça me permet de connaître donc ce projet NFTable depuis sa création en 2008 et sa longue histoire déjà puisqu'on est quand même maintenant en 2014.
D'accord. Comment ce projet d'évolution d'IPTable a vu le jour?
Ce que j'aime bien employer comme terme, c'est extrêmement galvaudé, mais c'est plutôt une révolution, puisque là, on a un peu tout jeté et tout refait sur ce qui est la partie filtrage. Alors, juste un peu pour poser les briques, on a en fait 2 briques principales dans ce qu'on appelle, nous, NetFilter au sens propre. Donc, NetFilter, c'est le projet global, mais NetFilter, c'est aussi la partie dans le noyau Linux. Et on a une interface de configuration de NetFilter pour la gestion des règles qui, historiquement, s'appelle IPTable.
D'accord.
Et c'est cette commande IPTable qui, dans le langage courant des admins et des utilisateurs de Linux, a pris le dessus sur ce qu'on appelle, au sein du projet, NetFilter. Voilà, donc cette commande IPTable, elle a été introduite dans le noyau 2.0, donc ça commence déjà bien à dater, avec des concepts de l'époque. Et ça a commencé à vieillir, et c'est pour ça qu'il y a eu une refonte totale qui a été entreprise par Patrick McCarthy, qui était leader de l'équipe de NetFilter pendant plusieurs années. Et il a décidé de mettre toute la partie filtrage pure sur l'établi, donner un grand coup de pied dans l'établi et puis de recommencer à zéro. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement nouveau avec
Mais pourquoi il a eu envie de tout recommencer? Est-ce que c'était...
Alors justement, j'ai des petits chiffres là-dessus qui sont assez amusants. À l'époque d'IPTable, puisque IPTable est encore toujours dans le noyau, encore toujours utilisable, on avait 70 000 lignes de code dans le noyau.
D'accord.
Pour environ 50 000 lignes, 60 000 lignes peut-être en espace utilisateur. Bon, il y avait des gros soucis, notamment... On va recommencer par se placer au point de vue de développeur. Pourquoi est-ce qu'un développeur s'est engagé dans l'idée de tout refaire? C'est Patrick McCarthy qui en fait est arrivé en 2008. Il a fait une conf pendant les NetFilter Workshop. Les NetFilter Workshop, c'est des réunions annuelles des développeurs NetFilter. Et il a fait une présentation pendant 2 à 3 heures où il a expliqué ce qu'il avait fait. On avait tous eu mal à la tête à la fin et tout le monde était un peu scié par ce qu'il avait réussi à entreprendre. Donc ce qu'il a entrepris, c'est de faire un changement total pour pallier certains gros soucis qu'il y avait au niveau des pétales. Un des gros soucis qu'il y avait pour le développeur, c'était cette multiplication des lignes en espace noyau. Qui dit ligne en espace noyau dit « je veux introduire une nouvelle fonctionnalité ». Ça veut dire que je suis parti pour plus de 6 mois avant que ça atteigne la prochaine release. Je fais la moindre boulette, je fais planter le noyau Linux, donc on est sur du pas cool du tout. Et donc il s'est dit comment je pourrais faire pour limiter un peu ce genre de truc, avoir quelque chose qui soit plus évolutif. Il s'est aussi posé la question de comment éviter les souffrances qu'il avait eues pendant des années de maintenance de NetFilter. Sur la partie, si je fais un filtre sur les ports TCP, j'ai un module pour ça. Donc j'ai un fichier de code à compiler. Je fais un module pour filtrer sur les ports UDP. C'est la même chose. J'ai aussi un module avec un fichier séparé dans le code source de Linux. Donc on est sur quelque chose qui est, si on regarde avec les évolutions de qualité de code et des choses comme ça, c'est un peu préhistorique, quoi. on est un peu sur du non, c'est pas possible, ça va jamais, ça c'est pas maintenable quoi. Et donc il s'est dit, bah, comment on peut simplifier ça, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire que bah, filtrer sur TCP/UDP, si on regarde d'un côté logique de très loin, c'est exactement la même chose. Donc comment est-ce qu'on peut implémenter ce genre de choses? Donc il est parti sur une refonte complète du système de filtrage qui se base sur une technologie qui s'appelle Berkeley Packet Filter, qui consiste à dire, bah, si je veux filtrer sur le port TCP, je regarde le paquet, je sais qu'il faut que je regarde à telle distance du début du paquet et sur telle longueur. C'est ça le principe du Berkeley Packet Filtering. Donc c'est ça qu'il a implémenté, ce qui permet d'avoir en fait bah, une décharge complète de tout ce qui est au niveau du noyau, puisqu'on se contente d'implémenter cette machine qui permet de faire des matchs assez intelligents. Et après, au niveau de, c'est l'espace utilisateur qui va dire, bah, en fait, tu vas me faire un match où tu vas regarder à tel décalage et tu vas regarder la valeur qui s'y trouve.
Bah par contre, j'ai une question, effectivement, c'est qu'à faire du match comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors bon, dans IPv4, les choses sont relativement stables, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un paquet est un paquet est un paquet, et les décalages ont un sens. Quand je vais récupérer mon entête TCP, souvent je vais la récupérer au même endroit. Par contre, dans IPv6, des fois il y avait des moments où c'était un peu plus compliqué. Enfin, des modifications d'entête, des choses comme ça. C'est pris en compte ça aussi ou pas?
Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la couche Linux, il y a un décalage. Tout est une question de gérer le décalage et le point de départ du décalage quand tu vas faire ta vérification. Et donc, le noyau Linux a déjà la stack IPv6 qui est implémentée. Et donc, tu peux faire un match par rapport à ce qu'il y a en dessous d'IPv6.
D'accord, ok. Pardon.
Donc, tu t'y retrouves.
Ok.
Voilà, tu n'es pas dépendant de devoir tout réimplémenter justement en espace. Tu peux t'appuyer sur le travail qui a déjà été effectué, qui a déjà été validé sur les autres parties de Linux.
D'accord, le pré-match qui a été fait avant. Moi, IPTable, je l'aimais bien. Je le trouvais bien, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, mais je trouvais que c'était pas mal. Bon, évidemment, avoir 70 000 lignes de code dans le noyau, ça peut être un peu flippant, parce que ne serait-ce que vérifier tout ça, on n'est même pas question de le vérifier formellement, mais effectivement, dès qu'il y a un bug là-dedans, eh ben, le risque, c'est que ce bug-là se transforme bon, au mieux en refus de service, et au pire dans une exploitation niveau kernel, où je vais écrire à peu près n'importe où, n'importe comment niveau kernel, donc j'ai les droits maxi pour faire ce que je veux sur une machine qui normalement est foutue en front-end, puisque c'est un firewall, et donc c'est de l'exploitation maximale. Mais là-dessus, justement, ce que ma mémoire me fait défaut, il y a des grosses vulnes qui ont été trouvées dans IPTable, enfin toute la partie netfilter IPTable, c'est à cette époque-là ou pas?
Il y a eu quelques trous de sécu, je me rappelle plus l'exploitation à distance, il y a des divulgations d'informations, je crois qu'il y avait des plantages, mais pas eu de gros trucs quoi. Ça a encore été.
Ok, d'accord. Mais si ça marche, pourquoi changer?
Parce qu'on avait marre. En fait, on s'était dit que voilà, le marché de la formation était en chute libre au niveau du logiciel, parce que tout le monde connaissait Imputable. Et que par conséquent, il fallait un peu redévelopper ça avec des nouveaux trucs pour apprendre. Voilà. Voilà. C'est tout.
Alors ça, je voudrais qu'on en reparle après, justement.
Et donc, NFTable, comment a été choisi ce nom?
Alors, NFTables, tout simplement, on a eu dans l'histoire de Netfilter le préfixe NF qui s'est imposé au fur et à mesure, puisqu'on a notamment eu sur un noyau de 6.14 un truc qui s'appelait NFNetLink qui a été une des premières grosses évolutions. Donc voilà, donc on a commencé à avoir des NF pour net et puis filter, voilà, en deux mots, qui sont apparus un peu partout. Dans les codes sources, on a des NF qui traînent dans pas mal d'endroits. Voilà, c'est pour ça qu'on est passé d'IPTable à NFTable. Et l'air de rien, il y a aussi, je viens juste d'y penser, là, une grosse importance, c'est que IP dans IPTable, bah, on a IP. Et pour ceux qui ont fait un peu d'IPv6 sous Linux, ils savent aussi qu'il y a IPStable, qui est aussi une autre commande qui permet, elle, de gérer le pare-feu pour IPv6. Et donc voilà, on est sur quelque chose où qui finalement était dépendant de la famille. Et une des fonctionnalités clés de NFTable est cette indépendance par rapport à la famille de filtrage. Et donc NFTable est capable de gérer le filtrage IP, le filtrage IPv6, le filtrage de bridge, le filtrage de ARP, ou ARP, je sais pas comment il faut le dire. Mais voilà, donc on a eu toute une série dans la partie factorisation de code et refonte, on a eu effectivement aussi le fait d'avoir un truc qui était purement IP vers un truc qui était multicouche.
Alors justement, t'embrayes bien vers la question suivante, quels sont en fait les avantages de NFTable par rapport à IPTable?
Alors, comme le disait Nicolas, on a déjà une partie où le code est plus limité, donc on a des chances de faire plus de choses et d'arriver à faire des trucs sympas un peu plus vite. Ça, c'est pour la partie développeur. Après, si on regarde un peu ce qui intéresse tout le monde, puisqu'on n'en a rien à faire de développeur, on est 15 ou 20 à bosser et on est 10 milliers à utiliser, donc pensons à la majorité, l'écrasante majorité. Alors, l'intérêt, ben, c'est déjà d'avoir un seul outil. Par exemple, on avait un truc qui était un peu galère sous IPTable, c'était que si je veux faire, par exemple, protéger mon laptop, ben, j'ai envie de dire, ben, mon laptop, je vais quand même pouvoir me connecter en SSH dessus, et puis le restant, c'est fermé. Et donc, si on fait ça en IPv4, on va dire, si on fait ça sur son laptop, il faut le faire en IPv4, en IPv6. Et là, dans NFTable, par exemple, on a une chaîne qui s'appelle Inet qui match pour IPv4 et IPv6, donc on rajoute une règle et on a fini. On dit qu'il n'y a que ça qui est utilisé. Donc voilà, donc ça, c'est un des aspects intéressants. Et après, on a des choses qui sont un peu plus évoluées, qui sont enfin bien uniformisées, comme un truc que je trouve vraiment appréciable, c'est la gestion des ensembles. Donc on peut dire j'autorise le filtre, j'autorise l'accès sur ma famille, sur la liste de mes serveurs web, et puis je rajoute un serveur web, et puis au lieu de devoir changer mon jeu de filtrage, je change juste l'ensemble de qui constitue la liste de mes serveurs web.
D'accord, ah, pas mal.
Et ça, ça marche sur les IP, ça marche sur les ports, donc on peut faire j'ai en fait ma liste de serveurs qui est accessible par deux ports, donc je fais le set dans l'ensemble des ports et l'ensemble des IP. Là, j'ai terminé, j'ai fait une sauvegarde.
D'accord.
Ouais, alors, question technique là, justement, enfin, ça veut dire que finalement tu as une recompilation à un moment donné, parce que si jamais je change, supposons donc j'ai un serveur web qui est sur une adresse quelconque, et finalement ce serveur web il change, donc plusieurs serveurs web. Et donc j'ai une liste de serveurs web, et cette liste de serveurs web, je vais la modifier, je rajoute un nouveau serveur web par exemple, ça recompile, ça fait quoi? Parce que,
Non, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours quand même une évaluation séquentielle du jeu de règles.
Ok.
C'est-à-dire qu'on parcourt chaque règle, on vérifie que l'ensemble des filtres définis sur chaque règle match ou pas, et on prend une décision.
D'accord. Mais ça veut dire que justement, ma liste de serveurs, elle est placée où en mémoire? Enfin, on la trouve où?
Elle est dans un ensemble. Donc la règle de filtrage, c'est vérifie que l'adresse IP est dans cette table de hash, pour parler développement, par exemple. Ou dans ce RB-tree, ou dans ce... on a toutes des structures qui sont adaptées. Et d'ailleurs, ça fait partie des avantages, c'est qu'on a un choix potentiellement automatique de... des ensembles sur lesquels on va faire un match.
Ok. Voilà. Ça veut dire que quelque part, et ça nous amènera un peu peut-être sur la syntaxe, mais ça veut dire que dans NFTable, j'ai quelque chose qui me permet de définir un ensemble. Donc pas seulement en gros une règle qui me dit ça tu drops, ça t'accepte, ça t'accepte si la connexion est établie et j'en passe des meilleurs. Mais là, tu as un truc qui dit ça, si ça appartient à cet ensemble-là, on fait ça. Et donc cet ensemble-là contient les éléments blablabla.
Exactement. Donc on peut définir un ensemble anonyme ou un ensemble nommé. Anonyme, on fait juste la liste des ports, c'est TCP, accolade 22, 23, fermer l'accolade.
Donc
ça fait une liste de ports, c'est à peu près ça la syntaxe. Et là, on a ce qui est plus intéressant, c'est des ensembles nommés, où là, on va dire, cette fois-ci, je filtre par rapport à arrobas web server, et j'ai des commandes d'ajout, de suppression, de création de cet ensemble web server, où je peux créer l'ensemble web server et rajouter ma liste d'adresses IP à l'intérieur.
Et ça se fait alors que le firewall tourne, j'ai pas besoin de dropper aucune règle ou de dropper les tables?
Il n'y a rien à faire, on met à jour l'objet de manière transparente.
Ok.
Alors justement sur la configuration, moi je connais IPTable où tu configures en ligne de commande et ou alors t'as une liste de règles qui peuvent être sauvegardées et puis réimplémentées. Comment ça se passe en pratique?
Alors ce mode de ligne de commande a été préservé. Donc on a toujours une ligne de commande, mais qui est complètement différente. Pour les fans de pare-feu open source, on se rapproche maintenant de la syntaxe de packet filter d'OpenBSD. Ouais, je sais, je vois certains qui font des grimaces, mais oui.
Malheureux.
C'est assez différent, ça fait un peu bizarre au début, mais bon, à la fin...
ça fait plus bizarre, ça fait juste mal, d'accord?
Pour revenir à la question d'Eric, donc on a toujours cette possibilité d'importer un jeu de règles. Là, il va falloir attendre les toutes dernières versions, parce que là, on est justement, c'est encore un projet qui évolue, on reviendra après là-dessus. Et donc voilà, mais donc il y a effectivement possibilité de faire des dumps et puis de restaurer. Il y a aussi, ce qui est vachement sympa, une partie ligne de commande interactive, enfin une CLI quoi, comme on dit, une CLI. Et donc ça, c'est pour le moment, il n'y a pas encore la complétion, mais bon, quand il y aura la complétion, ça va devenir intéressant.
T'as dit complétion ?
Ouais.
Oh, sexy.
Ah ouais, mais ça, ça va être bien. Ouais, ouais. Donc, je crois qu'il y a eu des codes, mais je crois pas qu'ils sont encore arrivés. Voilà, et encore expérimental, mais c'est d'en faire partie des objectifs. Un des autres objectifs aussi, c'était un des défauts, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de solutions. Si on prend par exemple le Network Manager, si vous cliquez sur votre, si vous utilisez votre téléphone Android pour dire bah, partage la connexion. En fait, derrière, il y a un Network Manager qui tourne et il lance des commandes IP table de manière transparente. Et bah, sur un téléphone, ça va encore. Sur un laptop, ça peut devenir un peu plus compliqué quand on fait exactement la même chose parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un a lancé la commande à la main ou etc. Et l'interaction avec IP table pour tous ces front-end, que ce soit ce type Network Manager ou type interface de configuration, c'était le problème, c'était de lancer des commandes IP table. Et donc, on va avoir dans Nftable une bibliothèque de haut niveau qui va permettre de gérer ce genre de choses de manière beaucoup plus simple. Alors, ça sera une des autres utilisations, c'est que le travail des front-end va être beaucoup bien facilité par l'introduction de Nftable.
Et la gestion des groupes, par exemple, d'ordinateurs, etc., ça sera dans des fichiers ou tout sera comme ça se faisait avec IPTable en ligne de commande?
La gestion des groupes, on peut les définir en fait dans, quand on fait un dump d'une table, la table contient les ensembles et voilà, et dans les, tous les ensembles sont définis de manière textuelle à cet endroit-là, quoi. Donc on peut avoir un tout homogène au niveau du fichier de configuration.
D'accord.
Un truc que je crois comprendre dans ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, à un moment donné, donc j'ai mon jeu de règles qui est déjà stocké quelque part, et je peux vraiment faire une modification très précise sur un point de la règle et sans trop embêter, parce qu'à une époque, enfin quand j'avais joué avec IP Tables, je me souviens que c'était surtout super chiant parce que il y avait quand même un moment où si j'avais créé une règle dynamiquement pour je sais pas filtrer un truc particulier, il y avait quelque chose que j'avais vu qui pas, je veux modifier cette règle là et ouais à l'époque je comptais faire un outil qui faisait ça à la main et c'était super chiant parce que j'étais justement obligé de retrouver les règles qui chaque règle en fait, de retrouver la sémantique des règles, d'exporter les règles et de retrouver ce qu'elles voulaient dire et pour finalement pouvoir retrouver ce truc là et après je récupérais un numéro de ligne je crois ou un truc comme ça. Là ça veut dire que finalement on peut, est-ce qu'on peut interroger l'état actuel des choses et savoir bah, notamment enfin bon ce que tu disais déjà c'est que sur les adresses IP je peux rajouter une adresse IP à un ensemble et ça c'est réglé, mais on peut aller plus loin là-dessus ou pas sur la dynamicité, sur l'observabilité de l'état actuel du pare-feu.
Alors, c'est une très bonne question et on pourra en parler longtemps.
Merci.
Alors, un des points intéressants au niveau de la dynamicité, c'est il y a un mécanisme de subscription qui a été mis en place, mm-hmm. où on peut donc définir un processus se met à l'écoute et reçoit toutes les modifications qui sont envoyées, qui sont effectuées au niveau du pare-feu. Donc on se met à l'écoute. L'idée est de dire on se met à l'écoute, on dump le jeu de règles, on fait un parsing du jeu de règles et après on se fait prévenir des modifications atomiques et unitaires qui sont effectuées sur le jeu de règles.
Ok.
Voilà, donc comme ça on peut avoir une vision justement globalisée de ce qui se passe et d'évolution au fur et à mesure.
Ok.
Donc tu peux journaliser ouais, les modifications aussi.
Voilà, effectivement, c'est une des implications, c'est qu'au niveau de la journalisation, on va pouvoir journaliser donc telle règle a été ajoutée à telle heure, telle IP a été rajoutée à tel ensemble à tel moment. Voilà. Ça fait partie, effectivement, au niveau de la traçabilité, c'est un énorme point.
Mmh. Ah, c'est carrément bien ça. Ok, je note.
Et comment est-ce que tu situerais BFTable par rapport aux autres firewalls?
Alors, je pense qu'il y a des choses qui poussent les choses assez loin en termes de gestion des ensembles. On a même des choses dont j'ai pas parlé, qui sont des mappings, qui sont un truc encore plus compliqué. Je sais pas si ça va être adopté par les utilisateurs, mais il y a moyen de faire des trucs très amusants. C'est par exemple de dire ça vient de telle adresse IP, alors j'applique telle décision. En fait, c'est comme un ensemble, mais clé-valeur. Si j'ai tel port destination qui est validé, à ce moment-là, je prends telle décision ou je fais telle action. Je suis vraiment pas clair là.
Mais tu pars plus sur un switch case en fait.
C'est pas un arbre, c'est vraiment un clé-valeur, c'est-à-dire on va dire dans Inevitable, si fais-moi un match, par exemple sur le port destination TCP, et suivant le port destination TCP, fais cette action. Et donc on a eu un ensemble qui est cette fois-ci une combinaison port destination et action.
C'est un peu comme un switch case en fait, mais que tu peux définir de manière dictionnaire.
Exactement, ouais, c'est ça, ouais.
Ok.
Ouais, donc ça, potentiellement, ça peut être amusant. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher en termes d'utilisation utilisateur, mais il y a du potentiel.
C'est des actions internes ou tu peux, par exemple, lancer un script qui va...
Non, c'est des actions qui sont purement internes. C'est vraiment faire un mapping entre deux entités qui sont connues dans Inevitable et Filter. Par exemple, une IP destination et par exemple, un des exemples qui est donné, c'est quand on veut faire du NAT et qu'on a plusieurs interfaces de translation d'adresse et qu'on a plusieurs interfaces de sortie, on dit si ça sort par ETH0, alors tu réécris vers telle IP. Si ça sort par ETH1, tu réécris vers telle IP.
D'accord.
Par exemple, si vous êtes deux prestataires Internet en même temps, ça peut servir.
Mm-hmm.
Voilà, mais c'est vraiment des notions internes. Il n'y a pas de script qui peuvent être lancés à cet endroit-là. Un des autres points que j'ai pas évoqué en termes de possibilités, là on est un peu plus en prospective, qui peut être assez intéressant, c'est la partie en fait que le langage de le Berkeley Packet Filter dont je parlais tout à l'heure, bah, potentiellement ça ressemble à du pseudo, c'est du pseudocode. Enfin, potentiellement c'est du pseudocode. Donc qui dit pseudocode dit potentiellement optimisation. Donc, il est envisageable d'employer des algorithmes d'optimisation de type compilateur, des algorithmes d'optimisation dédiés pour transformer le jeu de règles en quelque chose de beaucoup plus optimal en termes de performance. Donc ça peut potentiellement être un des trucs qui est intéressant. Et le truc qui est bien aussi, c'est le fait qu'il soit multifamily. Donc là, je ne sais pas par rapport aux autres comment on se place, mais le fait qu'on ait IPv4, IPv6, ARP, Bridge dans la même syntaxe, c'est quand même assez pratique.
Mm-hmm. Donc ton truc compilable, là, par exemple, supposons qu'on ait un parc de quelques milliers de machines, et tu peux déployer sur tout ce réseau les mêmes règles, de façon homogène et en plus de façon compacte, c'est ça, hein?
On pourrait
faire 5 ou 2, mais est-ce que tu peux imaginer des scénarios où tu répartis ça sur un grand nombre de machines?
Il y a justement un projet qui a été mis en place qui s'appelle NFT Sync, qui vise justement à arriver à publier sur tout un ensemble de machines un jeu de règles. Donc, c'est-à-dire on fait une modification sur une règle et c'est poussé sur l'ensemble des pare-feu directement. Donc ça c'est un projet qui est en cours, on est encore sur de la vraie alpha quoi, on est plus sur un projet de recherche, mais c'est quelque chose effectivement qui est en train de se faire.
Question là-dessus, on peut imaginer qu'on va synchroniser des règles, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va synchroniser des états?
Ça au niveau des états on peut déjà le faire, on a déjà le contract D, les tools de gestion du suivi de connexion qui permettent de synchroniser les états, ouais.
Mais entre plusieurs machines?
Oui, entre plusieurs machines. La réplication du suivi de connexion qui est effectuée par ContractD permet justement de faire la réplication du suivi de connexion entre différents pare-feu, ce qui permet de faire du load balancing ou la reprise en cas de défaillance.
Mm-hmm. Alors, tu parlais de version alpha pour la partie synchro. Est-ce que Inevitable peut être mis en production d'ores et déjà?
Alors, l'ensemble des fonctionnalités manquantes et qui s'avère être gênantes est en train de diminuer comme peau de chagrin. Il n'y a quasiment plus rien qui manque. Je pense qu'il va falloir... moi, j'utilise depuis quelques temps... il y a des limites, mais ça va, donc je ne comprends pas. Une des limites qui était un peu embêtante dans pas mal d'utilisations, c'était le support de ce qu'on appelle le masquerade, à savoir la traduction d'adresse dynamique par rapport à une IP qui peut changer sur un laptop ou sur une connexion Internet classique. Donc ça, ça arrive dans le 3.18 qui va sortir dans un mois ou deux, là. Donc à ce moment-là, on aura pour moi un des derniers gros écueils qui manquait, qui va être fixé. Dans le 3.18, on devra aussi avoir. Je suis un peu mon développeur. Avec la prochaine version, ce sera la bonne, mais mais là cette fois-ci c'est un peu vrai. Voilà. Donc par contre, si en termes d'utilisation, en termes de stabilité, ça fonctionne bien, on n'a pas eu de retour. Il y a commencé à avoir pas mal de gens qui l'utilisent et il n'y a pas eu de retour sur des instabilités criantes. Quand ça fonctionne quoi.
D'accord. Et en ce qui concerne la migration, elle peut se faire en douceur, c'est-à-dire que est-ce que je peux prendre mon fichier de configuration IPTable et le réinjecter, utiliser le nouveau moteur, on va dire.
Alors, c'est aussi une question compliquée. donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux manières de le faire. On peut utiliser NFTable avec IPTable. Je m'explique. Il y a un moteur.
S'il te plaît.
Il y a un moteur de compatibilité qui a été mis en œuvre. Et donc, si on appelle iptables-compat, j'ai jamais testé parce que je préfère jouer avec NFTable, mais si on appelle iptables-compat, ben, en fait, ça, on utilise la syntaxe d'iptable et ça crée des règles NFTable. Donc, on peut utiliser là exactement en fait, les outils qu'on avait avant. Je ne sais pas quel taux de couverture on est, mais ça commence à être pas trop mal. Donc, on va pouvoir récupérer comme ça pas mal de scripts. Et bon, par contre, on n'utilise pas les nouvelles fonctionnalités, donc c'est un peu dommage. On manque pas mal de trucs. Par contre, il y a peut-être un chemin de migration. Il faudra que je l'étudie. Ça fait deux fois que j'en parle. Il faudra peut-être que je le fasse un jour pour vérifier si ça fonctionne. C'est potentiellement, on peut envisager de jouer son jeu de règles dans IPTable et de demander de le dumper après au format NFTable. Puisque si on utilise la compatibilité, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc normalement, on devrait pouvoir récupérer le jeu de règles comme ça. Ça fera que je teste si ça fonctionne, mais il y a une bonne probabilité que ça fonctionne.
D'accord. Mais alors, et la syntaxe, pourquoi l'avoir changée? Parce que la syntaxe IPTable était quand même pas mal.
En fait, il y a plusieurs raisons sur le changement. Une première raison, c'est qu'il y a plein de nouveaux trucs, comme la gestion des ensembles.
D'accord.
Donc là, c'est comment est-ce qu'on va faire la syntaxe pour définir une liste, comment on va faire la syntaxe pour définir, par exemple, j'ai parlé de la notion de mapping tout à l'heure. Donc mapping, si vous savez comment vous écrivez une table de hash dans votre langage de programmation préféré, vous êtes peut-être en train de vous dire que ça a été un peu compliqué de l'écrire avec une commande, avec des petits flags à la IPTable, donc il nous faut un truc qui ressemble à une grammaire. Et je pense que c'est le fait qu'il y ait eu cette grammaire qui a poussé Patrick McCarthy à se dire on va partir sur une vraie grammaire et puis on va refaire le langage qui se corresponde. Une des idées aussi derrière ce changement de grammaire, c'est que Berkeley Packet Filter s'est aussi utilisé au niveau de la logique dans TCP Dump. Et donc je pense qu'il s'est inspiré un peu des idées de TCP Dump pour faire ça.
D'accord.
Un des points aussi pourquoi il y a eu cette évolution, c'est que il y avait pas mal d'inconsistances au niveau d'IPTable, avec des options dans quel sens on les fait, des trucs qui n'étaient pas forcément clairs. Si je vous demande par exemple comment est-ce qu'on filtre les paquets TCP SYN, il y a la version courte avec -SYN qui fonctionne bien, mais sinon c'est une galère infâme. Et donc là, on a des choses qui sont beaucoup plus claires avec des opérateurs. Il suffit de dire, le paquet, le signe n'est pas posé, avec un point d'exclamation égal, comme dans un langage de programmation beaucoup plus clair. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Alors ça fait un peu mal de changer, mais on y gagne.
On garde le principe des tables qu'on peut créer, par exemple, pour gérer le trafic d'une interface à une autre.
Oui, alors les tables, là, c'est la grosse bouleversification, on a effectivement les tables, mais on a tellement de tables qu'on n'en a pas, en fait. On n'en a pas au début. C'est-à-dire que les tables sont créées par l'utilisateur, maintenant. Donc, si vous avez, par exemple, un laptop, vous pouvez avoir un laptop avec juste le filtrage en sortie et en entrée. Pas besoin de créer d'autres tables. Et puis après, si vous voulez faire effectivement des tables utilisateurs pour faire du filtrage interface vers interface, ça existe toujours, il n'y a aucun problème pour le faire.
D'accord.
Et d'ailleurs, il y a des optimisations là-dessus, puisque ça, là-dessus, on peut utiliser le mapping. Si ça rentre par telle interface, à ce moment-là, saute sur cette table-là. Mmh. Et quand on utilise le mapping, on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide, puisqu'on n'a pas besoin de parcourir les règles de manière séquentielle, mais on fait une recherche dans la structure de mapping. Donc ça va plus vite.
D'accord.
Voilà, et donc le fait d'avoir des tables dynamiques est assez amusant. Je repense à ce que disait Nicolas tout à l'heure, où il disait je voulais faire mon outil qui faisait des modifications. Moi, c'est une contrainte que je rencontre beaucoup là, sur ma partie autre boulot, plutôt ma partie pro, sur les IDS et les IPS.
Faudra qu'on en reparle d'ailleurs, un de ces quatre.
Voilà, on se voit bientôt, donc ça devrait être bon. et sur la partie... Là, sur la partie IPS, bah, la problématique, c'est d'arriver à gérer les règles qui font rentrer les paquets dans l'IPS avec les règles de filtrage standard. Ça a toujours été une galère innommable. Je pense que j'ai des entrées de blog qui doivent avoir une dizaine de personnes qui sont capables de les comprendre tellement c'est compliqué. C'est vraiment horrible. Et là, ça a été simplifié de manière prodigieuse par le fait qu'on puisse créer des tables, puisque là, il suffit de dire, bah, je crée une table qui est utilisée... pour le filtrage des paquets qui sont routés par la machine, et bah, on va la mettre après les règles de filtrage standard. Hop, je crée une deuxième table, et comme ça, j'ai pas de conflit. Je chaîne les règles de filtrage.
Et typiquement, c'est mon IDS que je vais plugger sur cette table-là, et ce truc-là, en fait, bah, le trafic nominal continue à passer, sauf que je rajoute mes règles d'IPS à ce moment-là,
ouais,
et je suis moins emmerdé.
Exactement.
Ok, pas mal. Ok, il faut vraiment que je regarde. Mais justement, une petite question, là c'est la question de l'enseignant qui parle. Nous, ça fait des années qu'on forme nos étudiants sur IP Tables. Bon, la question a déjà été un peu abordée. Mais globalement, comment est-ce que... Enfin, est-ce que c'est pas trop compliqué? Enfin, donc des jeunes professionnels, on a formé depuis maintenant quelques années, hein. Et pour eux, passer à NF Tables, ça va être compliqué s'ils parlent ne serait-ce que couramment IP Tables ou finalement ça va aller... Ils injectent vraiment, enfin ta technique, j'injecte mes règles dans... en IP tables et je les compile pour qu'elles passent en NF tables et après je récupère les règles NF tables. C'est compréhensible ou pas trop, ou il faut qu'ils s'y remettent complètement? Les concepts fondamentaux, c'est quoi finalement?
Il y a une partie concepts fondamentaux qui ne change pas. La partie bizarre comparée à d'autres pare-feux de Netfilter IP table avec la partie des chaînes input, forward, output, etc. qui sont, je pense, un des trucs les plus compliqués à comprendre quand tu enseignes ça.
Ouais.
Ça reste. Puisque, donc on n'a pas le changement à ce niveau-là. Et donc, finalement, l'utilisateur d'IP table sait où il doit mettre sa règle.
OK.
Quand il fait du NF table. Après, la syntaxe change un peu. Si on veut faire exactement du code à la IP table avec du NF table, il faut juste apprendre qu'au lieu de faire -d, on fait IP DADDR. Voilà. Voilà, si on a juste une substitution avec un truc qui est un peu plus long à écrire, mais au moins lisible.
Ok.
Et tu as, comme dans IP Table, des tables de NAT et des tables de filtrage ou
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Non, il y a à ce moment, au niveau des tables, il n'y a pas de changement, il y a juste plus de flexibilité.
D'accord.
Voilà. Le suivi de connexion, c'est pareil, il ne change pas. Il y a vraiment que la partie filtrage et expression des règles qui a été modifiée.
Alors, j'avais une question sur la performance. Est-ce que tout ça, ça a un vrai impact sur la performance?
Alors, si on fait une transcription bête de règles IP table en règles NF table, le fait qu'on ait un code pseudo-interprété, pour interpréter, mais pseudo-compilé et générique, fait qu'on va peut-être perdre un petit peu en performance. Par contre, il est très facile d'optimiser les parties coûteuses, qui étaient par exemple une longue liste de serveurs qui générait une vingtaine ou une trentaine de listes, en une règle qui va être j'ai une seule règle et je vais faire un recharge dans une table de hash ou une structure encore plus évoluée, et là on est donc à ce moment-là très rapide. Donc voilà, il est possible que de faire des conversions brutales fasse perdre quelques pourcents de performance. Mais par contre, si on commence à utiliser les optimisations, là, on va en gagner en performance et en lisibilité.
Et on a parlé d'IPS là tout à l'heure, mais tout ce qui est interaction avec tous les différents outils qui te permettent de réagir aux incidents et de bloquer, voilà, tout ça, ça fonctionne dynamiquement sans aucun problème. Et est-ce qu'il y a un avantage avec NF Table justement par rapport à ça?
Alors, la partie journalisation n'a pas changé. Enfin, journaliser les paquets, les flux, c'est resté inchangé. Ces couches-là n'ont pas été touchées.
Réagir automatiquement.
Et réagir automatiquement, faut que l'outil parle le bon langage. Donc, s'il parle IP table, utiliser l'IP table compatibilité, ça devrait fonctionner. Sinon, il faut essayer de le convertir à NF table, quoi.
Alors, j'ai une question pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, aujourd'hui, dans le noyau, tu as les deux systèmes qui cohabitent?
Oui, tout à fait, oui. On peut utiliser, il y a encore l'infrastructure d'IPTable, il y a aussi l'infrastructure de NFTable, et puis on a même la troisième couche, puisqu'on peut utiliser IPTable en utilisant l'infrastructure de NFTable.
Alors, est-ce qu'il y a des conflits potentiellement?
Non, en fait, ce qui se passe, ouais, si, il y a des conflits potentiellement. En termes pour les outils, il n'y a pas de conflit. Après, ce qui va se passer, on ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les outils ne sont pas en conflit puisque ils écrivent chacun dans leur propre table. En fait, les tables sont accrochées à ce qu'on appelle les hooks. Et bah, chacun a sa propre table et ils n'écrivent pas dans les mêmes tables. Grosso modo, ils ont des couches de filtrage à différents endroits et donc bah, ils n'écrivent pas au même endroit, au même moment, avec des outils différents. Il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. Après, la résultante en termes de filtrage, on risque pas d'ouvrir des choses en plus, on risque plutôt de bloquer des trucs en trop.
D'accord.
Ouais.
Mais en termes, est-ce qu'il y a des fonctions pour un drapeau, par exemple, pour indiquer, OK, sur cette machine, on a plutôt configuré avec tel outil plutôt qu'un autre? Parce que imagine, tu as deux administrateurs sur le même serveur, et puis ils vont chacun s'amuser à mettre des règles avec des outils différents, sans se rendre compte.
Ça peut être amusant, ouais.
À part sur des bonnes façons de travailler, mais est-ce qu'il y a des manières pratiques et voir dans le noyau de dire OK, c'est ça qu'on utilise actuellement.
Je pense qu'il faudrait. Autant. Je pense que ouais, ça va être de la bonne pratique, mais je veux dire, c'est configurable et pas dépendant de l'humain. C'est de dire que bah, sur une machine, on ne charge pas. On met par exemple les modules d'IPTable en blacklist ou les modules de NFTable en blacklist. Et ce qui se passe, c'est que la commande IPTable va, elle, charger les modules dynamiquement et la commande NFT, qui est l'outil de configuration de NFTable, fait exactement la même chose, mais pour ses propres modules. Donc si on dit on charge pas les modules IPTable, on a beau lancer la commande IPTable, ça va faire un échec. Donc ça peut permettre d'empêcher une utilisation croisée un peu bizarre.
Et donc ça va dépendre certainement des distributions qui vont dire à un moment donné, ben, moi je passe sur NFTable.
Oui, je pense que la distribution, on pourra faire ça, ouais.
Et est-ce que le plan, c'est de remplacer complètement ou est-ce qu'il y aura une cohabitation parce qu'il y a des avantages et des inconvénients de part et d'autre?
Je pense qu'IPTable va rester longtemps parce qu'on connaît la résilience des gens au changement, ça va rester pendant très longtemps dedans. L'idée est quand même de basculer sur NFTable assez rapidement et je pense que justement dans la partie de ce plan-là, c'est le fait d'apporter une règle de compatibilité IPTable satisfaisante qui devrait permettre par exemple d'avoir un nouveau noyau qui fait que du qui contient que l'infrastructure NFTable mais sur une machine où les scripts IPTable continuent de fonctionner.
Ouais, ah ça serait top, ouais.
Donc ça, on a quasiment tout qui fonctionne à l'heure actuelle en IPTable en utilisant NFTable derrière. Ce qui permet bah, d'assurer une compatibilité pour la plupart des utilisateurs.
Eric, est-ce que vous avez besoin de monde pour contribuer à développer NFTable?
Oui, alors, il y a un point qui est essentiel et un grand classique dans notre domaine, c'est la doc, la documentation. Donc on a un wiki sur lequel on a prévu pour NFTable pour marquer les bonnes utilisations. Pour le moment, ça ressemble plus à un how-to de base qu'à un wiki complet avec suffisamment d'exemples. Ah, donc si vous avez bah, testé NFTable, allez sur ce wiki, commencez à regarder. Et puis si vous avez des problèmes et des bonnes idées, faites remonter, on vous crée un compte sur le wiki et vous pouvez contribuer. Là, ça permettrait déjà d'avoir un premier point. Et puis, ouais, puis je tiens quand même à le signaler. Merci à pas mal d'initiatives. Je pense notamment à Google Summer of Code qui nous paye des étudiants depuis 2 ans maintenant. Ça, c'est très cool. Et aussi à Outreach Programme for Women, puisqu'on a une développeuse qui travaille sur le projet aussi, toute jeune. Comme les 3 autres gars qui travaillent sur Google Summer of Code. Et ça fait du bien de voir du sang neuf arriver, tout frais, avec plein de bonnes idées et très volontaire. Donc ça, c'est cool par rapport notamment à la survie du projet, où on a une injection de nouveaux contributeurs qui est vraiment très intéressante.
Super, bien, merci beaucoup Eric.
Ouais, merci
Merci à
carrément.
vous. Merci
Ouais.
Eric.
On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit donc à très très bientôt.
Ciao, ciao.
Au revoir. Au revoir.